Quel temps fera-t-il demain ou dans une semaine? Serons-nous même un jour capables de prévoir le temps qu'il fera dans un an? Détour vers le futur vous propose une plongée dans la science des prévisions météo.
Au-delà des dictons populaires, des douleurs d'arthrite, des vues dégagées sur les montagnes qui annoncent la pluie, peut-on vraiment prévoir de manière fiable la météo? Et comment? Et au-delà de ça, pourquoi faire?
Pour en discuter, nous recevons Yann Michel, ingénieur et chercheur chez Météo France, ici à Toulouse. Spécialiste des questions de modélisation, vous avez porté plusieurs projets de recherche sur ce sujet au Centre National de Recherche Météo. Bonjour Yann Michel.
Bonjour.
Notre second invité a un profil plus atypique, puisqu'il se définit lui-même comme météorologue et hacker éthique. Très impliqué dans le partage des savoirs dans le domaine de la météo, il milite aussi pour une meilleure prévention des risques naturels liés au climat. Bonjour Yann Musquet.
Bonjour.
À la demande du ministère de l'Agriculture, des Flandres à la Seine, précipitations abondantes entre 8h et midi. Cependant, sur la Bretagne et le Cotentin, les vents seront plus forts afin de dissiper rapidement les nuages venus de l'Atlantique et la température sera maintenue à un niveau élevé. À la demande générale, le beau temps régnera dès le matin au sud de la Loire et s'étendra à partir de midi dans toute la France pour le week-end.
Alors voilà comment on imaginait le bulletin météo du 19 mai 1999. On était alors le 18 mai 1962. Alors aujourd'hui, on ne sait toujours pas fabriquer la météo à la demande, mais au moins on peut la prévoir de manière assez précise. Yann Michel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait une prévision météo?
Oui, alors c'est vrai qu'en 1962, on est à une étape où on n'a pas encore des modèles complets qui décrivent l'état de l'atmosphère. Ils arriveront dans les années 70 et 80. Et donc, par contre, on commence à avoir une connaissance assez précise des lois qui décrivent l'évolution de l'atmosphère. On sait qu'une particule d'air, elle va évoluer avec le vent, changer de volume si la pression change, etc. Et on a également une bonne connaissance de la thermodynamique, des échanges de chaleur. Mais on commence également à ce moment-là à imaginer résoudre les équations. On a bâti, dès les années 50, un cadre de coopération internationale qui nous permet d'échanger les données au niveau mondial. C'est l'un des grands exemples de coopération au niveau international, sous l'égide de la météorologie mondiale. Et donc, on échange toutes les observations réalisées sur des stations, des bateaux, des avions. Les avions en ligne, par exemple, mesurent le vent. Et puis, depuis les années 90, des satellites. Et on se les échange gratuitement entre tous les pays du monde.
Et là, donc, on parle de température, on parle de pression, on parle de pluie,
de vent, de vitesse du vent.
De pression atmosphérique, c'est tous ces éléments-là?
Oui.
D'autres encore, peut-être.
Peut-être, là, il y a des mesures plus ou moins directes de l'état de l'atmosphère. Dans les mesures assez indirectes, il y a aussi tout ce qui est satellite. Mm-hmm. Les satellites voient, en fait, une image qui est, en fait, une énergie reçue et qui, en fait... est une intégration un petit peu sur la verticale de la température et de l'humidité. Donc ça, il y a des mesures un petit peu indirectes. Il y a des mesures par radar, où là, on va en fait envoyer un faisceau qui va être rétrodiffusé par des particules. Et on en déduit les précipitations et savoir si elles s'éloignent ou pas du radar, donc leur vitesse de déplacement.
Alors, ce qui tombe très bien, c'est que Gaël Musquet, assis en face, a lui développé dans une vie précédente des capteurs météorologiques.
Complètement des néphélomètres, où on mesurait l'énergie émise par les nuages, le rayonnement infrarouge en particulier, pour pouvoir détecter la présence ou pas de ces nuages et faire un état de la couverture nuageuse. Ça sert pour les avions, ça sert pour mesurer le fait qu'il fasse beau ou pas. Et ça peut être intéressant de savoir à quel plafond se situent ces nuages. Est-ce qu'ils vont, pour le coup, parfois générer des précipitations ou carrément, s'ils sont au sol, des nébulosités qui vont, qu'on va appeler du brouillard. Donc moi, j'ai travaillé sur ces sujets-là en particulier, ce qui m'a amené à énormément travailler ensuite sur des nuages un peu moins sympas, des cyclones, des ouragans et des tornades.
Et alors aujourd'hui, à combien de jours on est capable de prévoir avec une certitude assez élevée la météo? Qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui pour optimiser ces prévisions météo? Est-ce que c'est les données d'un côté? Est-ce que c'est les modèles de mathématiques dont vous parliez? Est-ce que c'est la puissance de calcul des ordinateurs? Qu'est-ce qui nous limite aujourd'hui?
Un peu tout, en fait. C'est vrai que la puissance de calcul a été tout de même un facteur de progrès majeur, mais on sait qu'en descendant en résolution, en ayant une maille de plus en plus fine, nos modèles sont plus précis. Mais néanmoins, on sait que plus on descend en échelle, plus plus les erreurs croisent vite et on se bat un petit peu contre une forme de mur qu'on a souvent appelé le mur de la prévisibilité, qui fait que quand on a un modèle qui est plus fin, on a également potentiellement plus d'erreurs qu'il faut contrôler avec plus d'observations. Et donc, à un moment, il y a un challenge, c'est d'arriver à observer très très finement toutes les variables possibles de manière à contrôler ce modèle et qu'on soit le plus précis possible.
Et il y a des phénomènes qui sont plus difficiles à mesurer que d'autres. Les orages, en général, on entend parler un orage qui passe et puis ça tape à côté, c'est au mètre près, des fois, on a l'impression. Ça, c'est compliqué, quoi. C'est des phénomènes qui sont plus durs que d'autres.
Oui, exactement.
Des orages.
De manière générale, on peut dire qu'on a des erreurs dans des modèles de prévision du temps. Ces erreurs croissent avec le temps et on sait que ces erreurs ne sont pas identiques suivant. Elles dépendent de la situation météo. Donc, c'est beaucoup plus facile de prévoir une situation anticyclonique qui est stable.
Il fera beau sur toute la France.
Voilà, et donc on a en général une bonne prévisibilité. Par contre, sur les temps très, très perturbés, effectivement, on peut avoir beaucoup de mal à prédire, ne serait-ce qu'à quelques heures d'échéance encore.
Oui, à quelques mètres, parce que vous parliez de cyclones ou...
Là, on est sur des phénomènes qui sont très grands, donc très visibles. Les tornades, c'est plus compliqué, effectivement. On a le fait que ça arrive, souvent, c'est beaucoup d'observations au sol, humaines, vraiment une science populaire aux États-Unis sur cette question-là, avec des observateurs amateurs qui vont avec des véhicules, des pick-up, des véhicules blindés, aller vraiment essayer d'avoir les meilleures images possibles de ces vortex.
Les chasseurs de tornades.
Exactement, des tornado chasers. Et donc, en fait, effectivement, on a cette culture, en fait, de la chasse, vraiment aux États-Unis, qui est aussi présente en France. On a des beaux laboratoires comme Keraunos qui suivent ces phénomènes. Et plus on les observera évidemment de manière visuelle, plus on les documentera, plus évidemment, et puis on aura aussi des capteurs. Là, on a des scientifiques aux États-Unis qui lancent des roquettes, enfin des petites fusées à l'intérieur de ces tornades pour pouvoir aller mesurer les vents et les différentes constantes de ces phénomènes-là pour justement alimenter ces modèles, les documenter et permettre derrière de les faire évoluer aussi ces modèles et arriver à améliorer la prévisibilité de ces phénomènes.
Oui, d'avoir des correctifs finalement, faire des retours entre la réalité et le modèle et puis pour le corriger au fur et à mesure.
Est-ce qu'il existe des zones blanches en matière de données météo ? Est-ce qu'il y a des endroits où on n'arrive pas à capter, ou est-ce qu'il y a des je parle à la surface du globe.
Les océans, c'est compliqué. Ouais. Alors, en observation directe, comme on disait tout à l'heure, des déserts, des zones non habitées, c'est compliqué évidemment de densifier les réseaux de capteurs dans ces zones qui, a priori, n'ont pas non plus d'intérêt parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on utilise des moyens opportunistes, des avions, des bateaux. Évidemment, les technologies spatiales permettent de couvrir une bonne partie de la planète, que ce soit des satellites filants ou des satellites géostationnaires, qui vont permettre, évidemment, de couvrir ces zones blanches, mais pas forcément avec la résolution d'une station de météo au sol.
Et qu'est-ce qui explique la différence entre les différents sites qui font des prévisions météo ? Parce que souvent, on regarde, quand on compare des sites de prévisions météorologiques, on se rend compte que ce n'est pas forcément toujours pareil. Ou alors, ça change différemment d'un site à l'autre. Est-ce que ça veut dire que ça dépend finalement de l'algorithme de chaque agence de prévision météo ? Ou alors, est-ce que ça vient des données ? Enfin, ça vient de quoi, ces différences ?
Eh bien oui, on peut avoir plusieurs centres de météorologiques nationaux ou d'autres entités vont faire des prévisions, parfois souvent avec des modèles différents, qui eux-mêmes assimilent des données de manière un petit peu différente. Et puis il y a une vraie incertitude dans ces modèles qui se reflète dans la diversité des prévisions. D'ailleurs, c'est l'un des enjeux de ces dernières années, c'est de ne pas fournir une seule prévision, mais de fournir des ensembles de prévisions de manière à échantiner l'incertitude.
Que les modèles, ils divergent. Donc, on va faire tourner parfois plusieurs modèles. Ces modèles vont donner des réponses différentes. Et donc, l'objectif derrière, c'est de voir un peu, est-ce qu'ils convergent, eux ? Est-ce qu'ils donnent un faisceau qui disent, voilà, on tend vers ça, pour caricaturer un peu. Et c'est le challenge. Comme je disais tout à l'heure, on a des données de départ aussi qui vont influer le résultat final. Donc tout dépend des jeux de données sur lesquels ça s'asseye ces modèles. Et donc effectivement, ça peut donner lieu à des disparités d'un centre météorologique à un autre, d'un pays à un autre.
Et alors tout à l'heure, vous parliez, je reviens sur mes datas, c'est une petite marotte, vous parliez de données qui étaient collectées par des chasseurs de tempêtes ou autres. Les données, elles sont libres, elles ne le sont pas, c'est de l'open data, c'est des chasses gardées, parce que ça doit être hyper cher de produire de la donnée. Comment ça marche ? Est-ce que moi, je peux faire un bulletin météo à partir de données que je récupère de partout ?
Météo France.
Météo France.
Effectivement, il y a donc sur les observations qui sont collectées par le réseau de Météo France, on est sur la donnée publique. Mm-hmm. Donc effectivement, on peut avoir accès à ces données. Et depuis d'ailleurs même le 1er janvier, on a une ouverture qui est encore plus large, où on s'est affranchi de tout coût de redevance. Et donc, on peut avoir librement accès à ces données. Et effectivement, vous avez raison, il y a en plus de ces réseaux météorologiques nationaux, des observations d'opportunités et puis tout un ensemble de systèmes qui mesurent la météo. On peut penser par exemple à des stations chez les particuliers, mm-hmm. avec une société qui s'appelle Netatmo. Mm-hmm. Mais on se rend compte qu'en fait, beaucoup de signaux sont affectés par la météo. Par exemple, quand vous prenez votre téléphone portable, eh bien, il est affecté par la pluie. Donc, il y a également on a également des partenariats avec plusieurs entreprises du secteur de manière à tenter d'exploiter le potentiel météo qu'il y a dans ces données. Ils ne sont pas toutes sous statut ouvert.
On a des associations comme InfoClimat aussi qui ont des programmes d'installation de ces capteurs professionnels ou semi-professionnels dans des écoles. Et qui essaie aussi de fournir de la donnée. Énormément de réseaux, de citoyens, les CWOP aux États-Unis, Citizen Weather Observing Program, même des agences météorologiques comme le NOAA aux États-Unis, qui met des petits flyers à l'intérieur des boîtes de stations de météo qui dit « No AA needs your data », qui incite en fait les citoyens à fournir et à partager leurs données
météorologiques. La recherche citoyenne, en fait.
Mmh. Exactement, et c'est important qu'on puisse aussi... accompagner des jeunes, aider moins jeunes, des adultes aussi que ça passionne, comprendre comment on transforme une grandeur physique en grandeur électrique, cette grandeur électrique en données, cette donnée en information, l'information potentiellement, si elle est grave, en alerte.
Exactement.
Mais là, c'est du ressort de l'État, c'est régalé à l'alerte. mais effectivement, je dis souvent aux jeunes que j'encadre, un rôle à jouer sur ces observations.
Alors, ça fait une transition merveilleuse.
Exactement.
Parce que finalement, à quoi ça sert de produire ces prévisions très, très précises comme ça? Enfin, on parle effectivement là de prévention et de protection. Peut-être que c'est la transition idéale. Vous êtes militant, vous êtes engagé dans ces questions-là. Alors, sur quel type de phénomène et du coup, pour quel type d'exercice?
Alors, moi, je travaille effectivement sur... Maintenant, je suis généraliste, y compris sur des risques géologiques. Faut pas oublier que c'est les 20 dernières années, les crises qui ont les plus... tués sont des crises géologiques, des volcans, des tsunamis, des séismes. C'est 58% des morts ces 20 dernières années dans le monde. Alors, je ne dis pas que les crises climatiques et les événements météorologiques ne tuent pas, ils tuent, c'est le reste. et donc, effectivement, on a des besoins pour évaluer de la sécheresse, pour évaluer l'arrosage, ne serait-ce que pour économiser de l'eau. Ce n'est pas la peine d'arroser s'il a plu. Ce n'est pas la peine de vendre des glaces s'il fait trop frais ou qu'il pleut. On a un impact extrêmement important sur l'activité économique. Et effectivement, quand cette activité, en plus humaine, elle est perturbée et qu'on a des atteintes aux biens et aux personnes, là, on doit effectivement, en termes de prévention, mais aussi de prévision, mettre en place, et ce que fait l'État à travers des vigilances, les populations, évidemment, pour qu'elles se mettent à l'abri et qu'elles mettent évidemment à l'abri les différentes infrastructures qui sont sensibles, des grues, des chantiers, des personnes en situation de fragilité à cause de chaleur, de canicule, par exemple.
On a l'impression, Yann Michel, à Météo France, est-ce que vous avez cette impression aussi qu'il y a de plus en plus de vigilance ou d'alerte météo qui sont annoncées dans le public? On a l'impression là que depuis quelques années, on en entend parler très régulièrement.
Je pense que la sensibilité de la société a augmenté. Mmh. C'est vrai qu'il y a des choses qui passaient un peu sous le radar il y a quelques années. Et maintenant, on est plus météo-sensible. Ouais. Peut-être parce qu'il y a également beaucoup de population qui s'est installée dans des bassins vulnérables, par exemple en littoral. Il y a beaucoup de problématiques qui font que voilà, c'est une sensibilité exacerbée. Et donc, du coup, on est plus attentif aux prévisions météorologiques. Également, nos sociétés est très dépendantes de la météo. Mmh. Par exemple, l'aviation, le secteur de l'aviation est extrêmement dépendant de la météo. Il n'y a pas un avion qui décolle si on n'a pas une météo qui est précise. Et donc, cette sensibilité exacerbée se ressent. Mais en termes de nombre de vigilances, on n'a pas forcément de signal très net. On posera peut-être tout à l'heure un peu plus la question du changement climatique et de l'augmentation des risques. Voilà.
Et est-ce que vous avez des bulletins spécifiques pour certains domaines d'activité? Alors, vous avez parlé de l'aviation, bien sûr, où c'est très stratégique. Est-ce que Météo France a une répartition, enfin, a des prévisions météo peut-être plus précises, plus pointues pour certains domaines?
Alors oui, Tout d'abord, il y a le secteur de la vigilance. Enfin, pour tout ce qui est vigilance, effectivement, on a c'est la première mission de Météo France de secourir, d'aider à la prévention pour les personnes et les biens en météo marine, en météo de montagne, en termes de santé, en îlots de chaleur urbain, etc. Et puis tout ce qui est épisode méditerranéen. Donc il y a beaucoup de phénomènes météo et tempêtes également. On l'a vu il n'y a pas très longtemps. Donc au-delà de ce secteur, j'ai envie de dire grand public ou sécurité des personnes, on s'adresse également à un certain nombre de secteurs autres où les besoins de la météo sont importants. L'un des premiers secteurs, c'est l'énergie. Mmh. Évidemment, plus il fait froid, plus il faut chauffer. On est aussi en train de faire une transition énergétique où la part des énergies renouvelables augmente. Ces énergies renouvelables sont très dépendantes du vent pour l'éolien et du rayonnement pour le solaire. Et donc, évidemment, on nous attend sur des services pointus pour le secteur, de manière à accompagner un mix énergétique qui est de plus en plus du côté des énergies renouvelables. Il y a d'autres sujets, comme les feux de forêt, récemment. Mmh. On a eu une actualité qui était dramatique. Et donc, une mise en place d'une météo feux de forêt il n'y a pas très longtemps. On a également l'agriculture. Et puis les urgences environnementales, qui sont aussi des sujets, en plus de l'aviation, où Météo France propose des services pointus, un peu sur mesure, pour les acteurs qui en ont besoin.
Et au niveau de la prise de décision, de qui lance l'alerte, c'est-à-dire que vous lancez une alerte, mais je me retourne aussi vers vous, Gaël Musquet, parce que quand on décide d'une évacuation, ce n'est pas les services de Météo France qui décident de l'évacuation, c'est les pouvoirs publics. Donc comment ça se joue, cette articulation, et comment le public peut être sensibilisé à ça?
Alors effectivement, l'alerte, elle est régalienne. Donc c'est l'État, c'est les services de la préfecture, COGIC et COD, donc qui est au niveau des différentes couches administratives et de la gravité, évidemment, de l'aléa, qui vont... En fait, à la fois circonscrire en fait la zone de la vigilance ou de l'alerte, et utiliser, et c'est obligatoire depuis le 21 juin 2022, un système d'alerte par téléphonie mobile qui a été extrêmement important depuis le 21 juin 2022, qui s'appelle FR Alerte. Et FR Alerte permet donc de manière chirurgicale, prévenir les personnes qui sont dans une zone, qu'elles sont potentiellement impactées.
Et là, les personnes, elles n'ont rien à faire, c'est-à-dire que si elles sont juste dans la zone avec un téléphone mobile allumé, elles reçoivent le SMS sans rien faire.
C'est exactement ça. On a la chance d'être un grand pays de la radio. En 1997, la France est à l'origine, Sophia Antipolis, à l'époque, l'ETSI, a défini ce que c'est que l'alerte cellulaire. Premier essai en 1997 en France. Et il a fallu plus de 25 ans pour que cette alerte nous soit imposée par l'Union européenne. Donc les normes comme quoi, de temps en temps, ça a du bon.
C'est un peu long, mais ça arrive.
Voilà. Et il faut imposer ces normes. Ça a été long, mais c'est profitable. Et on voit qu'on a des moyens modernes aujourd'hui et qui sauvent des vies, qui permettent aux personnes d'être alertées quand elles sont en danger.
Et du coup, l'exercice qui a eu lieu le 19 janvier 2024 en région PACA, là, sur la Côte d'Azur, c'est avec ce réseau FR Alerte que les gens ont reçu le SMS?
Tout à fait. C'est un exercice qui permettait de vérifier à la fois que les opérateurs, les services de l'État étaient prêts, vérifier aussi la perception de l'alerte par la population, voir un peu, et dans les différentes couches, les personnes âgées, des enfants, des jeunes, vérifier que les téléphones, les marques, les millésimes, les versions des systèmes d'exploitation de ces téléphones reçoivent et retranscrivent bien l'alerte. On n'oublie pas qu'on a les Jeux Olympiques très bientôt, on va avoir en plus des personnes qui sont en transit chez nous, ne sont pas francophones, ne lisent pas forcément notre alphabet, et donc qui vont devoir aussi recevoir cette alerte dans leurs alphabets et évidemment autant que faire se peut dans les langues qui leur permettent
et
de comprendre.
Coup, sur un exercice comme ça, c'est combien de téléphones qui reçoivent un message?
Alors là, ça a été des dizaines de milliers de téléphones qui bornaient sur le littoral méditerranéen, même des centaines de milliers, parce qu'on a plus de 140 000 personnes à évacuer en théorie sur cette zone-là, résidents. Wow. Donc c'était à peu près la cible. Et donc il faut imaginer ce que c'est comme exercice. Le 21 mars prochain, moi je serai dans la zone Caraïbe sur un autre exercice de tsunami, là cette fois-ci. Plus de 500 000 personnes, alors pas forcément toutes dotées, mais j'espère que la France sera à la hauteur de l'exercice quand Guadeloupe, en Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les opérateurs et les préfectures hein, joueront le jeu et déclencheront ce système FR Alert. Mais on le voit là, sur les épisodes météorologiques récents, ça marche. Les gens sont sidérés parce que la sonnerie de ce téléphone n'est pas la même que celle de son sa sonnerie normale. Et donc, du coup, effectivement, ça permet aux gens de se mettre à l'abri et d'avoir le bon réflexe puisque les consignes sont diffusées dans un message texte.
C'est ça, parce que dans l'exercice que vous allez faire en Guadeloupe, Martinique et autres îles des Caraïbes, cette fois-ci, c'est pas juste je reçois un SMS, c'est que derrière, il y a un exercice à mettre en œuvre.
Tout à fait. On doit, et ça sera obligatoire d'ailleurs, hein, les maires, dans le cadre de la loi Matras l'année dernière, vont devoir s'entraîner au moins tous les 5 ans avec leur population. En Outre-mer, tous les salariés du public et du privé depuis le 1er janvier doivent recevoir une formation au risque majeur. Il faut que les populations vivent dans leur chair, parce que ça leur demandera d'évacuer leur logement, de se confiner, de se mettre à l'abri. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne sait pas, hein, c'est animal. On a des gens qui font des malaises, on a des gens qui s'en vont sans leurs enfants, sans leurs élèves. Et il faut donc développer ces réflexes comme des sportifs de haut niveau qui se préparent pour les JO en ce moment. C'est en développant ces réflexes qu'on a la bonne action et ça marche. Il y a des pays où ça marche très bien. Le Chili, 1 100 000 personnes évacuées en pleine nuit en septembre 2015. C'est la preuve qu'une population qui est informée, formée et alertée en temps et en heure prend les bonnes décisions. On n'est pas moins intelligent qu'un Chilien.
On va y arriver.
On devrait y arriver.
Nous sommes des Latins un peu comme eux, mais s'ils sont un peu plus chiens, les Chiliens, mais nous sommes aussi Latins comme eux. Je prends pas l'exemple du Japon, c'est les meilleurs de la classe. Mais les Chiliens y arrivent, les Cubains, les Vénézuéliens aussi. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas et qu'on ne gère pas ce facteur humain au-delà de la technologie.
C'est ça, c'est avoir les bons réflexes et savoir quoi faire à ce moment-là.
Tout à fait.
Allez, on va vous emmener dans un des futurs possibles des prévisions météo avec notre feuilleton SF de l'ICAM et François Donato. Voici la météo des vacances.
Connexion. Direction vers le flux demandé.
Bonjour, vous êtes en conversation avec Solar, l'IA de Météo France.
J'aimerais connaître le temps qu'il fera à Biarritz dans un mois.
Puis-je vous demander pourquoi ?
Un départ en vacances.
Veuillez patienter un court instant, je consulte les différents modèles. Dans 30 jours à compter de cette date, il fera 22 degrés à l'aube et la température atteindra 37 degrés au plus fort de l'après-midi à Biarritz. L'humidité ambiante atteindra quant à elle 40%, ce qui accentuera la chaleur ressentie. La température de l'eau sera de 25 degrés avec une force du vent assez faible. Un temps similaire est attendu pour toute la semaine.
Voici les dates précises. J'avais pensé qu'il ferait moins chaud en avril. C'est pour cette raison que j'ai recommandé à mon humain de poser ses vacances si tôt.
Si vous souhaitez conserver ces dates, je vous recommande de monter au niveau de La Rochelle où la température n'excédera pas 30 degrés à 15 heures sur la période.
Combien fera-t-il à Toulouse ? Mon humain y a quelques amis à qui il pourrait rendre visite.
Veuillez patienter un instant, je consulte le modélisateur IA en charge de l'intérieur des terres. La température sera légèrement plus clémente qu'à Biarritz. Elle atteindra 34 degrés au plus fort de la journée. Le ressenti sera atténué par un léger vent.
Quel est le pourcentage de fiabilité de ces prévisions ?
Nous sommes à 95% pour cette échéance.
Très bien. Merci pour votre remarquable efficacité.
Vous de même.
Déconnexion. En attente d'une nouvelle direction de flux.
Texte l'ICAM. Voix Corinne Mariotto. Sound design et réalisation, François Donato.
Alors, un futur où les machines s'occupent de l'intendance pour les humains, c'est quand même bien pratique, hein, cette IA solaire que Météo France pourrait imaginer. Bon, même si ça glitch un peu. Hein. Yann Michel, qu'est-ce que l'intelligence artificielle apporte dans le domaine des prévisions météorologiques ?
Eh bien, par exemple, déjà, on a des produits d'identification de phénomènes dangereux. Suite à une thèse, on a développé un algorithme qui détecte les échos arqués et donc qui est capable
les
échos arqués. Et donc c'est une signature hein, de certaines formes d'orage particulièrement virulents, comme il y a eu en Corse il n'y a pas très longtemps. Et donc on est déjà capable de travailler comme un prévisionniste en repérant ces signes de dangerosité, de gravité dans les images d'observation ou dans les prévisions.
Mmh. Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir permettre de faire un bond à nouveau aux prévisions météo, l'intelligence artificielle? On en parle beaucoup actuellement, on a nous-mêmes une grande exposition sur le sujet. Comment vous voyez le futur avec l'IA pour les prévisions météo?
Alors, on est en plein boom en ce moment. Ouais. On est en plein boom et c'est vrai qu'on a d'abord songé, peut-être un peu naïvement, que l'IA nous servirait à l'intérieur des modèles pour accélérer, mieux représenter certains phénomènes mal compris, comme la convection ou la turbulence. Et puis, on est en train de se rendre compte, hein, avec les essais qui sont menés dans la recherche au niveau mondial, que on est capable, effectivement, sur certains paramètres, de faire de bonnes prévisions avec de l'IA et de battre l'état de l'art actuel.
Ah oui.
On pourrait gagner combien? Parce que là, donc, on parlait de 5 jours, 6 jours. Est-ce que là, du coup, on pourrait avoir une météo à 1 mois?
On a déjà une météo à 1 mois.
Mais alors, avec quel niveau de précision?
C'est vrai que plus on regarde loin dans le temps, plus il faut moyenner spatialement et temporellement pour avoir une info. Dans un mois, on peut essayer d'estimer si on est plutôt au-dessus ou en dessous des normales à l'échelle de la France. Voilà, c'est typiquement le genre de signal qu'on a.
Ouais. Mais estimer la température de l'eau à La Rochelle ou à Biarritz, comme on vient de l'entendre, c'est compliqué.
C'est plus compliqué.
Il y a quand même un sujet sympa que je trouve avec notre époque, c'est qu'on a fait des bons en IA grâce à la téléphonie mobile, grâce aux jeux vidéo, grâce à la miniaturisation aussi des composants électroniques. Donc il y a tout un secteur qui est parfois difficile à financer, on en parlait un peu avant l'émission, le secteur public a du mal parfois à trouver de l'argent pour financer un certain nombre de travaux. Et là, on a effectivement l'industrie du divertissement, des télécoms, qui permet de faire chuter le coût du matériel, le coût aussi du développement des logiciels. C'est en ça que c'est intéressant, que ces capteurs sont de plus en plus petits, de plus en plus efficaces, de plus en plus précis. Et donc, effectivement, ça permet d'augmenter les capacités, les probabilités, en fait, de poser des capteurs dans des sites insolites, mais aussi d'augmenter la puissance de calcul à des coûts qui permettent d'avoir un soutien de financement, de subvention pour les services publics qui en ont bien besoin parfois.
Sur c'est important. Sujets.
Et pour répondre un petit peu à votre question, on fait des prévisions météo, on attend que les observations tombent et on peut les vérifier. Donc, en fait, on monitore les performances de la prévision météo depuis plusieurs dizaines d'années. Et en ordre de grandeur, on gagne à peu près un jour de prévisibilité tous les 10 ans.
Wow.
Voilà. Bon, évaluer la météo dans un an,
c'est... quelques pourcents par an en général.
C'est 10 ans, Marina, qui l'avait.
Mais c'est vrai que l'IA annonce peut-être là plusieurs heures, voire une journée de gain de prévisibilité.
Oui,
donc peut nous faire gagner peut-être 10 ou 20 ans de progrès.
Oui, donc on a là la puissance de calcul, donc là c'était la partie modèle, puis il y a la partie data dont vous parliez tout à l'heure Gaël, avec cette idée de la collecte. Est-ce qu'on pourrait avoir un système, enfin ça existe peut-être avec Info Météo dont vous parliez, un système genre un Waze de la météo où on pourrait confirmer ou pas la pluie ou la nappe de brouillard qu'on passe?
Mais les capteurs le font déjà, Netatmo c'est ce qui se passe déjà avec des industriels qui récupèrent ces données. J'ai participé à pas mal de hackathons, marathon de hackers avec la SNCF aussi qui est parfois impacté par ces ces événements météorologiques.
Surtout les passagers.
Et Netatmo était présent.
Les objets connectés, c'est un peu tout le développement de ces objets connectés qui peuvent permettre de capter.
Exactement. À défaut d'être aussi précis et déployé aussi de la manière empirique, au-dessus d'une pelouse, à une certaine hauteur, sous abri, etc., donne des tendances. Et c'est très important aujourd'hui qu'on puisse se nourrir de toutes ces données, qu'on ait la capacité de les traiter aussi, c'est important, c'est un enjeu de souveraineté. Donc effectivement, tout développement logiciel, matériel et une microélectronique qui permettrait de faire chuter les coûts et de distribuer au maximum ces capteurs, même sur nos téléphones, vous savez, en travaillant sur la partie sismique, avec une centaine de téléphones, on pourrait couvrir l'ensemble du territoire hexagonal pour arriver à mesurer des séismes, juste avec des téléphones aujourd'hui, grâce aux accéléromètres et aux gyroscopes qui sont dans nos téléphones.
Et là, pour le coup, on est équipé.
Là, on est équipé, effectivement, on a ces réseaux de télécommunications, juste dans certains pays, qui 3 à 5 secondes avant l'arrivée de la secousse sismique sont en capacité d'alerter une population.
Et alors, pour terminer cette émission, on pourrait parler un peu plus, revenir sur l'enjeu du changement climatique et par rapport à ces prévisions météo. Si on se projette dans le futur, on a tous lu, je crois, le dernier rapport du GIEC qui nous dit que justement la réalité dépasse même les modèles et qu'il y a une accélération dans ce qu'on pouvait imaginer dans le changement climatique. Et est-ce que ça va venir bousculer aussi la façon de faire les prévisions météorologiques? Comment vous vous adaptez, Yann-Michel, à Météo France, à cette nouvelle état de l'atmosphère?
Alors, ce qui est vrai, c'est que les effets du réchauffement climatique ont été un temps masqués par l'émission massive d'aérosols. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, et c'est assez récent, c'est que c'est un effet de politique anti-pollution. On a en fait dévoilé le changement climatique. Et c'est pour ça que ce changement climatique, il est beaucoup plus visible depuis 20 ans que dans les années 70 ou 80. Ce que je veux dire, c'est que... En fait, le changement climatique a toujours été là, depuis plusieurs dizaines d'années. Mmh. Et en fait, dans les observations ou dans la réalité, on le percevait moins parce qu'en fait, il était un peu contrecarré par un effet rafraîchissant des polluants industriels émis.
D'accord.
Et donc, les politiques en fait, de santé publique, et qui sont bien évidemment les bienvenues, qui permettent de vraiment de sauver des vies, ont en fait révélé également l'ampleur du changement climatique sous-jacent. Donc c'est un peu ça, c'est pas tant que les modèles étaient dépassés ou qu'on se rendait pas compte, c'était plus que il y avait un effet masquant des aérosols qui nous a caché le changement climatique pendant quelques années.
Mais là on dit qu'on a de plus en plus, enfin chaque année, des phénomènes climatiques extrêmes. Est-ce que ça, dans la prévision météo, c'est quelque chose qui vous pose question ou quelque chose sur lequel vous travaillez?
Alors, oui, on sait que l'atmosphère est plus chaude, elle peut contenir plus d'humidité. Qui dit plus d'humidité dit potentiellement plus de précipitations et des effets plus dévastateurs en termes de rafales. On a déjà des signaux nombreux pour dire que certains épisodes extrêmes vont augmenter. Cela dit, essentiellement, la physique du phénomène reste la même. On augmente évidemment les gaz à effet de serre, mais on ne change pas le cœur des modèles météorologiques. Et on a bonne confiance que les modèles météorologiques actuels sont capables de prédire la météo déjà partout dans le monde, y compris dans des régions tropicales où il fait très très chaud, y compris dans des régions polaires où il fait très très froid. Et donc on a quand même une gamme d'applications qui est très vaste de ces modèles météo. Donc on est quand même relativement confiant pour appréhender les risques, y compris dans un climat futur.
Mais alors du coup, là on dit qu'effectivement il y a une augmentation des cadences et puis du nombre de phénomènes extrêmes, mais c'est les plus difficiles à mesurer et à prévoir. Est-ce que du coup, on peut espérer qu'avec les progrès divers et variés qu'on a évoqués, on pourra les prévoir plus finement et justement faire de la prévention plus précise, plus fine, plus protectrice pour les populations qui vont être forcément concernées?
Alors, comme le disait Yann, le réchauffement climatique ne se manifeste pas de la même manière partout. En zone tropicale, par exemple, on ne va pas forcément avoir plus de cyclones ou d'ouragans, mais est-ce qu'on... En revanche, c'est ce qu'on observe en tout cas, plus violent. Mmh. Effectivement, on a deux enjeux. On a un enjeu de prévention. Et là, on oublie souvent qu'un euro mis dans la prévention, c'est 15 euros évités au moment de la reconstruction ou au moment de l'aléa. Et donc, c'est important qu'on investisse en amont de ces crises-là, que les personnes sachent réagir, que les entreprises soient prêtes, effectivement, et qu'on travaille en matière de probabilité. Et dire c'est à ça. Un chef d'entreprise qu'il va, de l'année prochaine, avoir une chance sur 10 d'être inondé, ça ne va pas forcément le faire bouger. Lui dire qu'à 5 ans, en revanche, il a une chance sur 3, là, on arrive peut-être à augmenter les capacités de réaction assurantielle et d'organisation de plans de continuité d'activité, plans de reprise d'activité. Donc, au-delà même de l'aléa et de sa mesure et de sa prévisibilité, il y a toute une partie sur laquelle on est pour l'instant très mauvais, surtout en France. C'est la culture du risque sur laquelle les Nations Unies travaillent beaucoup. Le cadre d'action de Sendai, priorité 1, c'est comprendre les phénomènes, 2, la gouvernance, 3, l'argent, comment on finance la prévention, mais aussi la reconstruction, et 4, faire et reconstruire mieux. Et donc là, effectivement, les services météorologiques, les services de l'État, du ministère de l'Intérieur, de l'écologie qui travaillent sur ces sujets, ont une responsabilité en matière de normalisation, d'accompagnement des populations et des collectivités.
Oui, en effet, on voit effectivement que cette question des prévisions météo, elle est vraiment multifactorielle. Elle interpelle énormément d'acteurs différents, énormément de paramètres aussi. On voit que la météo à la demande, c'est pas encore pour demain, en tous les cas, mais que ça reste une science très complexe.
Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos invités, Yann Michel et Gaëlle Musquet.
Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire. Terre. Cet épisode a été réalisé en coproduction par le Quai des Savoirs et le CNRS avec le soutien de l'Agence Nationale de la Recherche.
Détour vers le futur, un podcast préparé par Laurent Chicoineau et Marina Léonard avec l'aide de Françoise Vissac.
Réalisation Arnaud Maisonneuve, à la prise de son Laurent Caudoul. Abonnez-vous à Détour vers le futur sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme préférée pour écouter nos prochains épisodes et retrouvez-nous sur le site internet du Quai des Savoirs. Et d'ici là, restez curieux. Ciao.